Donc, Néhémie, chapitre 6. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballa, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches. Alors, Sanballa et Geshem m'envoyèrent dire « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je vous quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gachemu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis les murailles. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Je fis répondre à Sanballat, « Ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. » Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaïja, fils de Delaja, fils de Mehetabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple. Car ils viennent pour te tuer, c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pour entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui, car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Joshanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Berekia. Il disait même du bien de lui en ma présence et lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer.
Est-ce qu'on peut prier? Seigneur notre Dieu, ce matin, nous venons dans ta présence te dire merci pour ce temps que tu nous donnes. Maintenant, il est le temps, Seigneur, que tu nous parles. Nous sommes ici pour t'écouter. Nous sommes ici pour être instruits et enseignés par toi. Seigneur, dans ton plan divin, tu avais prévu que ce matin, je prendrai la parole, Seigneur, en ton nom. Alors pour cela, Papa, je te demande de me diriger, de me conduire, et que cette parole soit premièrement pour moi-même, mais aussi pour le peuple de Dieu. Que nous puissions être encouragés ce matin ensemble pour glorifier ton nom et pour faire ce à quoi tu nous as appelés. Merci Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Vous allez bien? Bon, c'est bien. Mais pour ceux qui ne vont pas bien, ma prière ce matin est que vous alliez bien. Et que le Seigneur vous fasse grâce, que vous alliez vraiment bien dans sa bonté. S'il y a des gens qui nous visitent ce matin pour la première fois, pour votre information, nous sommes en train d'étudier dans le livre de Néhémie depuis un certain temps à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine. Alors c'est un livre merveilleux que nous étudions. Et ce matin, le texte que je vais travailler est devant vous, c'est Néhémie chapitre 6, verset 1 à 19 que notre frère vient de lire pour nous. Alors pour une mise en contexte, mais avant de continuer sur ça, j'aimerais... Voilà, c'est ça, je suis là, déjà là. Alors, pour une mise en contexte, j'aimerais un peu rappeler que le livre de Néhémie, dans son ensemble, l'auteur lui-même, qui s'appelle Néhémie, si on pourrait dire comme ça, Néhémie était un serviteur assise dans le service d'un roi. Il servait le roi et il travaillait pour lui. Attendez, excusez-moi. Il travaillait pour le roi pendant plusieurs années. Mais selon des commentateurs, certains croient que cet homme-là, qui était échanson du roi, était né dans la captivité, ou d'autres pensent même qu'il avait été amené, déporté en captivité avec ses parents depuis Juda pour aller à Suse. Alors, pendant ce temps, Néhémie, qui grandit, qui travaille au service du roi, un jour, il y a des frères qui viennent de Jérusalem pour le visiter, et il va comme tout bon, toute bonne personne qui veut avoir l'information sur sa nation. Alors, il apprend vraiment cette mauvaise nouvelle que Jérusalem est vraiment dans un état lamentable et que les habitants souffrent. Les murailles sont tombées, il n'y a plus de protection pour cette ville-là et le peuple souffre. Et les gens pouvaient rentrer quand ils voulaient, sortir quand ils voulaient. Et Jérusalem était vraiment exposée au pillage. Et c'est dans ce contexte-là, Néhémie, ayant été touché profondément en lui-même, va prendre du temps pour prier et il va chercher la face de Dieu et puis chercher la faveur du roi et de Dieu. Il va retourner à Jérusalem, il va aller prendre, voir l'état des lieux et il va se mettre à encourager ses frères. Il va leur compter combien la bonne main de son Dieu a été avec lui. Et à partir de ce moment, le peuple va être encouragé. Son message va avoir un écho favorable au sein du peuple. Et là, ils vont se lever, ils vont dire, lèvons-nous et bâtissons. Ils se lèvent pour bâtir les murailles. Mais je peux vous dire que cela n'a pas été facile. C'est dans l'opposition qu'ils ont travaillé. Face à l'opposition à tout moment. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui s'appelaient, des personnes dont certains s'appelaient, et un s'appelait Sambala et l'autre Tobija et Gushem, étaient là, qui étaient des gouverneurs aussi dans la région de Samarie, mais qui s'opposaient, parce que Jérusalem était sous leur juridiction, et ils s'opposaient de ce qu'un homme venait de Suse pour faire du bien aux enfants d'Israël. Ils n'étaient pas d'accord pour ça. Mais Néhémie, ayant reçu tous les papiers du roi, pour pouvoir couper le bois, pour pouvoir faire tous les travaux, alors a continué de faire le travail. C'est dans ce contexte-là que ce matin nous allons aborder réellement le chapitre 6. Mais avant cela, la semaine dernière, Trevor nous a enseigné sur l'opposition qui était à l'interne. Nous sommes rendus maintenant à la deuxième opposition qui est à l'externe. Il y a Stéphane qui nous avait aussi enseigné dans le chapitre 4 l'opposition externe où Tobija, Sambala et les autres se moquaient d'Israël quand ils avaient commencé à bâtir les murailles. Et après, on a vu que la semaine dernière que Trevor nous a montré l'opposition à l'interne. Comme quoi cela nous enseigne quoi? En disant que l'opposition peut venir de partout. L'opposition n'était pas seulement à l'extérieur, mais c'était aussi à l'interne. Et l'opposition peut prendre toutes les formes, tous les visages. De l'autre côté, c'était les ennemis qui se moquaient d'eux. Mais dans le chapitre 5, on a vu que c'était même le peuple lui-même, des frères au sein du peuple qui abusaient, qui exploitaient leurs propres frères et sœurs. Et tout cela était des choses qui pouvaient nuire à la construction des murailles de Jérusalem. Alors ce matin, voilà comment nous allons partir. Mon plan... Hey, je suis revenu en arrière. Vous voyez ce monsieur, il est fort, hein? Il est plus fort que moi en tout cas. Quelqu'un qui déplace le monde comme ça, là, il doit être puissant. Alors donc, voilà ce qu'on va voir. Mon plan d'action, c'est ceci. La mise en contexte, on vient de le faire. Alors, la distraction, dans le chapitre 6, versets 1 à 4, et versets 5 à 9, la calomnie, la manipulation, l'hypocrisie, et on va arriver en conclusion. Ça peut aller? Bien. Alors, donc, plusieurs passages de l'Écriture nous appellent réellement à être vigilants. Nous appellent à prendre conscience qu'il y a un combat que le chrétien doit mener tous les jours. La vie chrétienne est un combat. c'est né dans l'amour, mais aussi dans un combat qui s'est déroulé à Golgotha. Et nous continuerons de nous battre jusqu'au retour du Seigneur, parce que c'est un combat spirituel. Et c'est pourquoi Paul n'a pas arrêté d'exhorter les chrétiens en leur disant que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits maléfiques dans les lieux célestes. Pour prévenir que nous avons un combat à mener, que nous vivons une bataille, que ce n'est pas facile. Alors il demande aux croyants de s'armer avec les outils de Dieu, les armes de Dieu, et de résister au diable pour mener un bon combat. Cela n'est pas nouveau pour nous. Alors donc, moi j'ai dit, Néhémie, un homme vigilant et déterminé. Un homme vigilant et déterminé. Pourquoi je dis ça, un homme vigilant et déterminé? Dans le texte que nous venons de lire, nous allons voir qu'il va y avoir de l'opposition à Néhémie. Et les différentes oppositions qui vont être là, c'est une ruse que l'ennemi va placer devant Néhémie. Alors Néhémie va se battre malgré cela. Il va avoir le discernement pour arriver à dominer ces ruses-là. Et il va être déterminé pour terminer le travail pour lequel il est venu à Jérusalem. Alors quand nous regardons Néhémie, un homme vigilant, déterminé malgré la distraction. Malgré la distraction. Certains pourront dire malgré la flatterie. Alors quand nous regardons le verset 1 à 4, ils nous disent ceci. Il dit, je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Gushem l'Arabe et nos ennemis apprirent que... Cette lumière-là, ça ne va pas bien pour moi, hein? Excusez-moi, on reprend. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija et Gushem l'Arabe, nos autres ennemis, apprirent que j'avais rebâti les murailles et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Gushem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée de Dono. Et ils méditaient ainsi de me faire du mal. Alors, donc, ici, nous voyons que, qu'est-ce qui se passe? Néhémie a fini les travaux. Les murailles ont été bâties. Il n'y a plus de brèche. C'est-à-dire que toutes les murailles de Jérusalem sont construites. Il n'y a plus de possibilité que l'ennemi puisse aller et venir comme il veut. Mais tout simplement, ce qui restait à être fait, c'était de poser les battants, les portes à installer. Et ces portes à installer allaient donner encore plus de sécurité à Israël. C'est ça seulement qui restait. Et quand les ennemis, Tobija, Sambala, Gishem, apprirent vraiment, et les autres ennemis, qu'il n'y a plus de brèche, alors, tout de suite, ça a déclenché une crise diplomatique. Ils vont chercher à joindre Néhémie pour parler avec lui. On l'invite, on lui tend un piège. On l'invite dans la vallée d'Ono. Et quand je lisais dans les commentateurs, certains disaient que d'Ono était à l'ouest de Jérusalem, entre 30 et 40 kilomètres. On l'invitait dans cet endroit-là où Néhémie devrait être loin de ses frères pour aller les rencontrer, pour pouvoir parler avec eux. Pour eux, c'était une façon de dire, Néhémie, viens. On voit que tu as réussi, le travail est fini, alors on sera appelé à vivre ensemble. Donc, pour cela, viens, on va s'asseoir, on va s'entendre pour établir les modalités comment on peut pouvoir coexister ensemble avec les autres nations autour de nous et autour de vous. Cela semble bon, mais ce n'est pas ce qu'il voulait faire. C'est un piège. Parce que Néhémie nous dit, il méditait de me faire du mal. Il voulait éloigner Néhémie de la place, du milieu de ses frères. Et l'amener loin comme ça, il pouvait mettre la main sur Néhémie. Comme ça, il pouvait le kidnapper probablement. Comme ça, il pouvait l'assassiner et le travail allait être retardé. Parce que il ne voulait pas que ce travail continue. J'aimerais ce matin que vous compreniez, y compris moi-même, que ce n'est pas tout le monde qui se réjouit de votre progrès. Ce n'est pas tout le monde qui se réjouit de votre succès. Ce n'est pas tout le monde qui va se réjouir quand l'Assemblée du Cap va se relever de ses ruines. Quand l'Assemblée du Cap va se relever de ses cendres, ce n'est pas tout le monde qui va l'apprécier. Certains seront mécontents. Alors comme les amis de Sambala, Tobija, ne sont pas contents que Israël, qu'en Israël, Néhémie puisse bâtir un muraille pour donner une sécurité et donner une protection. Il y a du progrès, ils avancent. Alors, ils essayent de les interrompre. Comme c'est Néhémie qui était l'auteur de ce travail, et que depuis le début, ils s'étaient opposés au travail, à ce projet-là, alors, ils vont s'attaquer à Néhémie lui-même. Il lui demande, viens, mais Néhémie ne va pas. Qu'est-ce que Néhémie donne comme raison pour ne pas partir? Nous pouvons le voir au verset 3. On peut le lire. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail sera interrompu pendant que je vais le quitter pour aller vers vous. Vraiment, il n'y a pas d'autre lumière ici qui peut m'aider. S'il vous plaît, c'est vrai, je porte mes verres, mais je ne vois pas bien. Pareil. Excusez. Hein? Oui, s'il te plaît. Donne-moi ça. Ouais. Femme merveilleuse. Qu'est-ce que j'aurais pu faire sans toi? Merci, chérie Coco. Chérie Coco, merci. Oui. Ce n'est pas la vieillesse, je suis encore jeune, monsieur. Alors donc, on revient à notre passage. Dans le chapitre 6, verset 3, il dit, « Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail sera interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. » Néhémie refuse d'aller les rencontrer. Il dit, je ne peux pas descendre. Pourquoi? Parce que j'ai un grand ouvrage à faire. J'ai un grand travail à faire. L'ennemi veut le distraire, le détourner de l'œuvre qu'il est en train de bâtir. Si Néhémie partait et qu'on mettait la main sur lui, ou qu'on le tuait, le travail allait être retardé d'avance. Ou peut-être qu'il viendrait encore remettre leur travail à zéro, qu'il fallait recommencer. Néhémie refuse. Le travail, j'ai un grand ouvrage à faire. Ce matin, j'aimerais que vous sachiez que vous avez un grand ouvrage à faire. Rebâtir l'Assemblée du Cap. Vous avez un grand ouvrage à faire. Votre propre vie est un ouvrage que Dieu vous a donné. Ta vie spirituelle est un ouvrage, un grand ouvrage que tu ne peux pas négliger. L'ennemi va essayer de te distraire avec beaucoup d'autres choses pour t'empêcher de progresser dans ton cheminement spirituel, pour t'empêcher de grandir comme chrétien, pour t'empêcher de t'épanouir comme chrétien, pour t'empêcher d'être un outil efficace entre les mains de Dieu. Alors il va envoyer de la distraction. Alors pour empêcher Israël d'avancer, les ennemis lui proposent de l'éloigner, de l'amener dans un endroit où il peut mettre la main sur lui. Quelles sont les distractions aujourd'hui que nous pouvons avoir dans notre vie? Les distractions aujourd'hui dans notre société, ça pourrait être quoi? Vous voyez ce monsieur? Il est concentré ou il est distrait? Hein? Il lit et puis il met du jus dans son griot. Et il se trompe de verre. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Oui, il y a des personnes qui sont franches. Est-ce que ça vous arrive ça? La distraction? Les gars, non, mais les filles, oui. Beaucoup de gens ont eu des contraventions comme ça. Est-ce que vous savez que la CAA, c'est comme ça on dit,
CAA et puis l'assurance automobile interdit, si vous partez sur leur site, il y a plusieurs interdictions des choses à ne pas faire quand on est au volant. Combien de femmes se maquillent au volant? Distraction. Ce qu'ils devraient faire, leur but, elles devraient être concentrées sur la route. Mais elles veulent rattraper le temps, donc elles sont distraites avec les mascarades. C'est comme ça on dit, mascarade ou bien mascarade? Hein? Mascarade, vont masquer des affaires. Je ne suis pas une femme, donc je ne connais pas le nom. Alors, ça c'est les gars. Hein? Ils boivent du café. Et ils textent. Et puis, il a téléphone dans son oreille encore, il parle. Mais libre. Mais en même temps, il a son cellulaire, il regarde. Et puis, il conduit. On dit que les femmes peuvent faire plusieurs affaires ensemble, mais pas les gars. La distraction. Et vous savez qu'à Blainville, il a été écrit, il y a sur leur panneau, pas de texto au volant. Zéro tolérance. Combien de frères et de sœurs textent au volant en conduisant? Je vois beaucoup de gens quand je roule. Moi, je n'ai pas de téléphone cellulaire, tant mieux. Je n'ai pas de problème avec ça. Il m'est arrivé une fois de reprendre une fille. Je venais de quitter l'église sur le boulevard des Recollets et sur le boulevard, comment on appelle ça, des Forges et puis Recollets, au coin. Ma femme me dit, Adama, fais pas ça. Au Québec, on ne fait pas ça. J'ai dit, c'est parce qu'on ne fait pas ça. Nos jeunes meurent. J'ai baissé ma vitre de voiture. Et puis la fille était à côté de moi, une jeune fille. Elle était dans l'auto et puis elle textait, elle regardait. Puis je dis, mademoiselle, j'ai fait comme si j'allais demander une route pour aller quelque part. Elle me regarde, je lui dis, non. Vous êtes en train de conduire d'une manière dangereuse. Elle dit, de quoi je me mêle? Je dis, ah ouais? Je me mêle de ce qui me regarde. Elle dit, mais comment ça? Je dis, parce que tu es un danger pour ma vie, tu es un danger pour les autres automobilistes. Je me mêle de ce qui me regarde. Parce que j'ai mes impôts et les impôts de tes parents, on a payé tes études pour que tu sois un citoyen de demain pour prendre la relève. Et tu as 22 ans à peu près, tu vas mourir et puis tout ce qu'on investit à toi sera zéro dans l'eau. Non, j'ai le droit de parler. Parce que mes taxes ont été investies en toi. J'ai le droit de parler parce que je t'aime. J'ai le droit de parler parce que vous êtes la relève de notre société. Si vous mourrez, alors on perd. La nation investit en vous. Pourquoi on ne parlerait pas? Ma femme s'est tue. La madame, la petite fille, elle a baissé, elle a monté ses vitres. Elle a déposé son cellulaire dans le coffre. Puis jusqu'à, en tout cas, je ne sais plus ce qu'elle a fait après là. Mais ce qui est sûr, en ce moment-là, je sais qu'elle ne parlera pas quand elle va voir quelqu'un dans l'auto à côté. Elle ne fera plus texto. Je l'espère. Hein? À la prochaine lumière, ok. Alors, pour vous dire que quoi, il y a beaucoup de choses qui nous distraient dans notre croissance spirituelle. Pendant que je suis en train de parler, peut-être certains sont en train de regarder leur téléphone cellulaire texto. Quand il y a un message qui rentre, tout, les jeunes sont devenus aujourd'hui accros. Quand il y a un message, on dirait qu'ils sont épileptiques avec ça. Ça n'a pas de sens. À chaque 5 minutes, face à face, on voit des jeunes qui regardent leur cellulaire tout le temps. Écoute, et puis regarde. J'ai dit, prochainement là, j'ai dit, Anne-Marie, tu sais ce qu'on va faire? Elle dit non. J'ai dit, prochainement, on va mettre le panier à la porte. Tous ceux qui vont venir face à face vont déposer leur cellulaire dedans avant de s'asseoir. J'aurais voulu faire ça ce matin, mettre un panier dehors pour qu'on mette les cellulaires dedans. Amen. La distraction. Le travail qui est quelque chose de bien peut être une distraction. C'est qu'on a besoin de travailler. Mais combien de fois on se lève le matin, on veut lire la parole de Dieu, mais on dit, oh, je dois aller au travail, oh, je n'ai pas le temps, je me suis réveillé en retard. Bon, Seigneur, le soir, tu me comprends, Seigneur, le soir, je vais lire. C'est certain, je vais lire le soir. Le soir, tu arrives à la maison, tu es fatigué, on a lavé les enfants, on a préparé le repas, on a fait le ménage, on a fait les devoirs. Allez, on est fatigué, il faut qu'on aille se coucher. Oh, Seigneur, comprends-moi, demain matin, je te promets que demain matin, je vais prier, je vais lire ma parole. Et puis, on ne grandit pas dans la foi. On reste comme ça. Combien de personnes sont dans ça? Il y en a plein. Oui, merci. Voilà un frère qui est honnête derrière, qui lève la main. Tous ceux qui n'ont pas levé la main, la plupart sont comme ça aussi. C'est des choses qui arrivent. Et ça nous empêche de grandir dans la foi. Néhémie dit non. Il refuse la distraction que les autres veulent lui proposer. Il avance. Ça aussi, ça empêche beaucoup de gens de grandir dans la foi. Le sport, c'est bien. Combien de familles, les dimanches matins, sont obligées d'aller accompagner leurs enfants dans le sport? Or, pourtant, leur place et leur famille devaient être à l'assemblée ce matin. Parce que dans notre société, ils ont tout focalisé sur samedi et dimanche. Et après, quand des troubles arrivent, les enfants ne sont plus capables de discerner le bien du mal. La distraction, même des bonnes choses, peuvent nous distraire et nous éloigner de Dieu et nous empêcher de grandir. Maintenant, tu as une grande chose à faire, une grande œuvre à faire. Tu as un ministère à bâtir. Tu as l'Assemblée chrétienne du Cap à bâtir. Ne laisse rien d'autre te détourner, te distraire pour te détourner de ce but. Amen. Si tu travailles à l'école de dimanche, c'est un grand ministère. Ne laisse rien te détourner de cela. Parce qu'on a besoin de toi. Tu dévances le diable chez les enfants. Nous continuons. Néhémie, vigilant malgré la distraction. Il refuse, il décèle quand on tend un piège contre lui. Néhémie, vigilant malgré la calomnie. Il est déterminé à partir, à avancer. Quand nous regardons dans le verset 5 et 9, quelqu'un peut le lire pour nous, s'il te plaît? S'il vous plaît? Bon, je vais le lire moi-même. Sambala m'envoya ce message une cinquième fois par son serviteur qui tenait une lettre ouverte. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations et Gachum, ça veut dire Geshem qui était en avance, c'est la même personne. Gachmou affirme que toi et les Juifs vous pensez vous révolter et que c'est dans ce but-là que vous rebâtissez les murailles. Tu vas même, il dit, tu vas dicton devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Alors, deuxième piège, la calomnie. Vu qu'ils ont demandé, la distraction n'a pas marché, la deuxième chose, c'est la calomnie. Ils essayent de mentir contre Néhémie. La diffamation. Avez-vous déjà été une fois l'objet d'une diffamation? Mais moi, je vais vous conter une petite histoire. Qui connaît ou qui a entendu parler du professeur de gym qui s'appelle Henri Fournier en 2008? Qui se souvient? Si les gens ne se souviennent pas, je sais que Jules Poulin se souvient parce qu'il lit beaucoup ça. Jules, tu te souviens? Tu ne te souviens pas? Dans la presse. Et cet homme a été accusé par 19 enfants à l'école d'attouchement sexuel. En espace d'une semaine, il se ramasse en prison. Et il a été libéré par caution. Les enfants avaient menti contre lui. Il a perdu son emploi. Et un an plus tard, les juges finissent par découvrir que cet homme était innocent. Et que les enfants avaient parlé, ils avaient fait une connivence ensemble pour essayer d'attaquer parce que c'était quelqu'un qui était ferme et qui voulait que les choses soient faites de la bonne manière. Et on demande aux enfants, l'attouchement sexuel c'était quoi? Les enfants même ne savaient même pas c'était quoi l'attouchement sexuel. Est-ce parce qu'il avait encouragé un enfant en tapant sur l'épaule? Ainsi de suite. On dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ouais, mais quand il est dans le gymnase, il n'arrête pas de regarder nos fesses. Mais comment il regarde vos fesses? On travaille, on fait du sport, et bien il a tout le temps, il regarde les fesses. Mais est-ce qu'il vous a touché? Non. Est-ce qu'il a fait ça? Non. Donc, des paroles comme ça, et les témoignages n'étaient pas cohérents. Ils ont fini par libérer le monsieur. Vous savez ce que le monsieur a perdu? Il a perdu sa réputation, même s'il avait été blanchi. $80,000 qu'il a investi dans les frais d'avocat. Un an de salaire qu'il a perdu. Et on le fait retourner au travail 4 jours. Il a tenu 4 jours. Il n'a pas pu continuer le travail. Malgré qu'il était innocent. C'est une calomnie qui était grave. Et ce que Sambala et Tobija disent, on dit Néhémie, on a appris que tu veux devenir roi. Même on a un témoin parmi vous qui le dit que tu veux devenir roi. tout ça pour le distraire, le provoquer à venir les rencontrer et qu'ils puissent atteindre Néhémie et faire ce qu'ils veulent de lui. Mais est-ce que Néhémie est parti? Non. Néhémie a dit ceci. On peut le regarder ensemble au verset 9. Si je viens, il dit, tous ces gens, non, au verset 8 plutôt. Et je fis répondre à Sambala, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui les inventes. Et ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'ouvrage ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Néhémie, ils ont menti contre sa réputation. Ils ont essayé de ruiner sa réputation. La calomnie est un piège, est une ruse de l'ennemi pour détruire les gens. Mais qu'est-ce que Néhémie fait? Néhémie combat la calomnie par la vérité. Il dit, ce que tu dis là n'est pas. Point. Avec fermeté, n'est pas. Point. Il s'arrête là. Il n'a pas continué plus que ça. Et tout ce qu'il fait, il prie son Dieu. Dieu, fortifie-moi. La fermeté, la vérité et la prière. Il se réfugiait dans cela. Nous avons été calomniés. Oui, si tu es calomnié, alors tu peux faire une chose, te réfugier dans la parole de Dieu et dans la prière. Mais si tu n'es pas calomnié, fais attention à ne pas être une personne qui calomnie les autres. Souvent c'est facile. Et savez-vous que telle personne a dit ça? Il paraît-il, il y en a beaucoup souvent. Mais évitons, si on n'est pas certain, ne disons pas cela. J'ai un frère qui est ici avec nous. Un jour, il est venu me visiter à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine. On était après un baptême. Et puis, il parlait avec des sœurs. Il y a des gens qui ont commencé à parler de lui sans le connaître. Il vient de me voir et dit, mais ce monsieur-là, je pense que c'est un prédateur. Hein? Il court après nos filles, là. Il court après nos sœurs, là. J'ai dit, non, tu ne connais pas la personne. Lui, c'est un frère qui est libre, il peut parler avec tout le monde, il n'a aucun arrière-pensée, et puis c'est un gars qui est marié, donc t'en fais pas. Il a fallu que j'éteigne l'affaire tout de suite, sinon les rumeurs partaient. Parmi les garçons, vous savez, les jeunes, ce qui se passe des fois, quand tu parles à une fille deux fois, trois fois, ou bien on dit, ah, lui là, il est en chasse, fais la chasse aux filles, fais la cour aux filles. Les filles commencent à dire, c'est fais la cour aux filles. Alors, il commence à être étiqueté d'une certaine façon. Faisons attention, les rumeurs détruisent, les rumeurs, la calomnie empêche l'œuvre de Dieu d'avancer. Si le cap veut aller de l'avant, si l'assemblée chrétienne veut réussir, nous devons sortir de ça. En Côte d'Ivoire, on dit, sors dans ça, quitte dans ça. C'est comme ça qu'on pourra réussir. Hey, la montre est à l'heure ou bien c'est moi qui... Ok. On va aller au bout. Je peux prendre 5 minutes, s'il vous plaît? S'il vous plaît, si c'est du note, on arrête. 5 minutes, ça va? Merci. 5 minutes, pas plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on voit ici que Néhémie, ils ont cherché à effrayer Néhémie, à l'empêcher de fonctionner, et ça n'a pas marché. Il a continué. Je vous ai parlé de ce pasteur et tout cela. Je vais dépasser ça, on va aller à l'autre côté. La manipulation et la peur. Dans le chapitre 6, verset 9, verset 10 et 14. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Dans verset 10 et 14, à 14, il nous dit, « Et je me rendis chez Madia, fils de Deladia, fils de Métabel, qui s'était enfermé. Et il dit, allons dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et enfermons-nous la porte du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendra la fuite, et quel homme comme moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Et je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait et qu'il prophétisait ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Et en le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et il aurait profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. La manipulation. Alors, on a donné un pot de vin à un prophète. On a donné un pot de vin à un lévite. Un homme de Dieu. Quelqu'un qui est dans la maison de Dieu, qui est censé protéger Néhémie. Qui est censé aider Néhémie dans l'œuvre de Dieu. Son rôle est de veiller sur les choses de Dieu et que le sacrifice et les choses de Dieu se fassent bien. Mais eux, ils ont accepté de marcher en connivence avec l'adversaire dehors pour pouvoir attaquer l'homme de Dieu à l'intérieur. Pour attaquer celui qui était un laïc qui voulait bâtir la maison de Dieu de tout son cœur. Néhémie avait son cœur dans l'œuvre. Il ne le faisait pas pour lui. Il le faisait pour la gloire de Dieu, pour le bien de ses frères. Il a quitté un poste confortable devant le roi. Il a quitté devant les pots de viande pour venir galérer sur le terrain avec eux. Il n'a même pas demandé de droit. Il n'a pas demandé de salaire. Il s'est privé de tout. Pour eux, le serviteur de Dieu qui devrait soutenir cet homme ne l'a pas soutenu à travailler de connivence avec l'adversaire contre Néhémie. Ils l'ont acheté. Et il a décidé de détruire l'œuvre de Dieu. Cela nous enseigne quoi? La manipulation, on va la trouver partout. Même parmi les enfants de Dieu, le blé et l'ivraie sont ensemble. Ils vont travailler. Mais quand le maître viendra, il moissonnera. Il gardera ce qui est blé et il brûlera le livret. Quel genre de personnes sommes-nous dans notre relation? Les dons et les talents que nous avons, est-ce que nous le mettons au service de Dieu ou nous le mettons au service de notre ennemi pour retarder l'œuvre de Dieu? Que faisons-nous de nos dons et de nos talents dans la maison de Dieu? La parole de Dieu est claire sur ces choses-là. La manipulation. Hey, on dirait que j'ai reculé. Non, excusez. On va aller au dernier point. L'hypocrisie de ces frères-là, on le voit aussi dans le verset 15. À 19, je vais le lire aussi rapidement pour finir avec ça. Il dit, la muraille fut achevée en 20 et fut achevée le 20e jour du mois d'août. Et août, ça voudrait dire entre septembre et août et septembre. C'est ce qui est dit, mi-août et mi-septembre. C'est dans ce bout-là. Alors, il dit, en 52 jours, lorsque tous les ennemis l'apprirent et toutes les nations qui étaient autour de nous, ils furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi les grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et en recevaient de lui. Car plusieurs de Juda s'étaient liés par serment parce qu'il était gendre de Shekania et fils d'Ara. Et que son fils Joachim avait pris la fille et de Meshalum, et fils de Berechia. Il disait même du bien de lui en ma présence. Et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Des gens qu'on croit qu'ils sont avec nous, l'hypocrisie, dans la maison de Dieu. Ils ont lié un serment avec les ennemis de l'extérieur. Ils travaillent avec eux et ils travaillent avec Néhémie. Un pied dedans, un pied dehors, c'est deux pieds dehors. À l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, si nous voulons réussir, nous devrons combattre, oui, tout ce qui est la distraction, premièrement. Si nous voulons réussir, nous devons combattre, deuxièmement, tout ce qui est la calomnie. Troisièmement, si nous voulons réussir, nous devons combattre tout ce qui est la manipulation. Quatrièmement, nous devons combattre tout ce qui est hypocrisie. Pour réussir l'œuvre de Dieu au Cap de la Madeleine, pour réussir vos propres vies comme enfants de Dieu et bâtir et être de grands serviteurs et de grandes servantes de Seigneur, il faut que vous combattez ces choses. Si vous tolérez ces choses, ça va vous retarder, ça va nous retarder, ça va retarder l'œuvre de Dieu. Mais si nous combattons ces choses-là, nous allons avoir du succès comme Néhémie a eu du succès. Et le monde saura que notre Dieu est avec nous et que l'assemblée chrétienne sortira de ses cendres. Que Dieu soit loué, prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour la patience de mes frères à mon égard. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Aide-nous à sortir grandis dans cela. Seigneur, toutes les épreuves que nous avons vécues, aide-nous de pouvoir avancer pour ta gloire et bâtir une œuvre qui te donne gloire en tout le temps et en tout lieu. Et que désormais la calomnie et ces choses ne trouvent plus de place au milieu de ton peuple. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que Dieu nous bénisse. Amen.